بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre nos programmes de tafsir et nos sincères remerciements au mutawalli, au responsable qui nous donne la possibilité donc de le faire après la salat de Maghrib par rapport au couvre-feu de 21h. Et Inch'Allah, quand la situation va s'améliorer, on espère, on pourra reprendre après la salat Isha. Donc là, sera un programme de 15 minutes, on ne va pas être long. L'objectif, c'est de reprendre contact, de garder un lien avec les versets du Coran, mais en même temps ne pas mettre les personnes qui assistent au programme dans une quelconque difficulté, pour que après le programme chacun puisse rentrer à la maison, se restaurer et surtout revenir pour la salat de Isha. Parce que si on fait un programme, on écoute, après on va manger, on revient pour Isha, ben voilà, on a perdu ce qui est le plus important, la salat ma'al jama'a. Alors pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient présents avant les vacances, on avait fait un tafsir assez complet de la surat al-Fatiha. Et on avait complété, juste avant les vacances, Waladdalin, et on avait, bi'idnillah, fait une synthèse et énuméré un peu les points qu'il fallait retenir de la surat al-Fatiha et comment retrouver cette sensation spirituelle puissante qui doit accompagner le croyant lorsqu'il est en état de prière. On va reprendre, Inch'Allah, le tafsir où on s'était arrêté avant. Ça remonte, hein, subhanallah. C'était le tafsir de la surat Al-Muddathir. Alors, les derniers cours datent de février 2021. Ça remonte. Donc, je pense que, voilà, on avait fait une vingtaine de versets, mais on ne peut pas reprendre là où on s'était arrêté. Ça fait tellement longtemps que je propose de faire une petite synthèse de ce qu'on a déjà vu de la surat Al-Muddathir. Déjà, Al-Muzzammil et Al-Muddathir. On a presque envie de dire que ce sont des surats jumeaux. Ce sont des sourates qui ont à peu près, on va dire, le même message. Et ces deux sourates ont été révélées à Mecca. On a des versets makkiyya, des sourates qui ont été révélées à Mecca. Pour ce tafsir, on se base sur As-Sa'di, rahimahullah, à 70%, et sur Ibn Kathir, rahimahullah. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahman rahim, ya ayyuhal muddathir. Qum fa andir. Sa kaliya n'était pas très concentré. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa andir. Wa rabbaka fa kabbir. Wa thiyabaka fa tahhir. Wal rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Wa li rabbika fasbir. Subhanallah. Ta'limat uluhiyya li khayril bashar. L'enseignement d'Allah Azza wa Jal pour le plus grand des prophètes, la meilleure des créatures. Et je répète, le prophète, le meilleur des prophètes, et qui a connu les difficultés, la situation la plus complexe de l'histoire des prophéties des Anbiya, alayhi salat wa salam. Et ça, on avait expliqué en introduction comment est-ce que cette société Quraysh, elle était organisée, mais il y avait tellement de difficultés et la da'wa était tellement complexe par rapport à leurs antécédents, par rapport à l'organisation justement de la société, que le prophète alayhi salat wa salam a eu la mission la plus difficile de l'histoire des prophètes. Pas la plus longue, parce que la mission la plus longue c'était le prophète Nuh alayhi salam, mais une mission qui englobe, on pourrait dire, l'ensemble des difficultés de tous les prophètes alayhim salatu wassalam. Et dans les relations avec les chefs de tribu, ce qu'on appelle les zu'ama de Quraysh, citez-moi trois notables de Quraysh, trois personnes influentes chez les Quraysh à Mecca. Abu Jahal. Alors, on en cite deux. Abu Jahal et Abu. Il y a une sourate le concernant. Tabat Yada. Et Abu Lahab. Rien que ces deux-là, c'était. Wallah Musta'an. des shayatin, des personnes qui ont causé beaucoup de tort au prophète alayhi salatu wassalam. Donc on est al-muddathir au début de la prophétie. On est dans les premiers instants avec la révélation de la sourate Wadduha wa al-layli idha saja, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. C'est pas l'ordre exact, mais c'est assurément les premières sourates que le prophète alayhi salatu wassalam reçoit de la part d'Allah. Alors justement, ya ayyuhal muddathir, al-muddathir, c'est celui qui est revêtu d'un manteau. On verra dans un instant pourquoi. Qum fa'andir, lève-toi. Qum fa'andir, lève-toi et avertis. Wa rabbaka fakabir, et de ton Seigneur, célèbre la grandeur, et tes vêtements, purifie-les, et de tout péché, écarte-toi, et ne donne pas de le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur, endure. Ce sont les sept versets qu'on a lus en introduction. As-Sa'di rahimahullah, en introduction, il dit que dans ses enseignements, dans ses ordres divins, Allah Azza wa Jal demande au prophète alayhi salatu wa salam de prendre à cœur sa mission et de le faire le mieux possible et avec ikhlas, avec sincérité. Allah demande au prophète alayhi salatu wa salam de faire le maximum de bonnes actions, de s'éloigner de tout ce qui est mauvais et blâmable, وَالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذَىٰ قَوْمِهِ, et de se montrer patient face aux difficultés qu'il est en train de vivre, face aux difficultés qu'il est en train d'endurer de la part de قَوْمِهِ, de son propre peuple. Et parmi son propre peuple, il y a également sa propre famille. Ça, c'est l'introduction de Sa'di rahimahullah. قم فأنذر أي بجد ونشاط. Allah demande au Prophète de se lever et d'aller avertir les gens, d'aller leur expliquer la ilaha illallah, d'aller leur faire comprendre que l'adoration des idoles s'amène vers la perdition. Et ce verset intervient dans un contexte particulier. C'était, et là c'est, on prendrait le relais avec Ibn Kathir, c'est une personne, on verra son nom précisément, parmi les Quraysh qui avait dit beaucoup de mal à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela l'avait touché et attristé. Et là on comprend que le prophète alayhi salatu wa sallam était avant tout un être humain avec un cœur. Et cet être humain est triste de voir comment est-ce que son peuple réagit à une mission qu'il est en train d'accomplir pour leur bien. Une mission pour laquelle il ne leur a demandé rien. Il n'a jamais demandé une quelconque rétribution. Et ce qui faisait le plus mal au prophète alayhi salatu wassalam, c'est que juste avant qu'il ne reçoive Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ces mêmes Quraysh le considéraient comme le meilleur parmi eux. On le surnommait Al-Amin, l'homme de confiance. On connaît l'histoire, on connaît les bases de la sirat. Comment est-ce qu'il l'aimait? Il le respectait, il le considérait. À partir du moment où il va dire à ses Quraysh « Qulu la ilaha illallah », ces gens deviennent ses ennemis. Et je reprends, même les personnes de sa propre famille, parmi eux ses oncles, et chez les Arabes, l'oncle était considéré presque comme le papa, le père. D'autant plus qu'il était orphelin. Donc ses oncles étaient là pour lui. Et sa propre famille, donc, est en train de le rejeter par rapport à cette prêche. Donc le prophète reçoit l'ordre de prendre courage. Et la première leçon à retenir, c'est que dans le travail de la da'wah, quand tu invites les gens vers l'adoration d'Allah, quel que soit le niveau, si tu es un alim, un cheikh, un fundi, peu importe comment on l'appelle, quelqu'un qui a la connaissance et qui va donc prêcher, ou alors à un niveau, je ne dis pas inférieur, mais à un autre niveau, en termes de relations individuelles, tu es un père de famille ou membre d'une famille, qui, mashallah, j'aimerais que mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes neveux, mes proches mais ils pratiquent mieux la religion. Donc, quand c'est l'heure, quand il y a un repas en famille, c'est l'heure de la salat al-Isha, je dis, ben, bismillah, on va aller à la salat et puis on revient. Ainsi de suite. Chose que, mashallah, tout bon croyant doit normalement essayer de faire. La leçon à retenir, c'est quand tu invites vers Allah, il y aura assurément des difficultés. Assurément, il y a des difficultés. Et ce qu'Allah demande au prophète de se lever et d'aller les voir, d'aller les convaincre, c'est une leçon pour chaque croyant que dans la prêche, dans la da'wa ilallah, yahtaju ila sabr. Ça nécessite beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et de se sacrifier pour Allah. Même si les gens peuvent peut-être vous insulter, à notre époque on ne se fait pas insulter, alhamdoulilah. Mais le prophète lui s'est fait insulter, n'est-ce pas? Il s'est fait agresser physiquement. Il a vu certains de ses compagnons torturés et certains sont morts. Pour la ilaha illallah. Dans tous les cas de figure, le croyant se doit de se montrer toujours patient. Et cette patience, elle est pour Allah. Et c'est là une grande action. L'autre leçon qu'on retient également, c'est que tout est dans les mains d'Allah. Ça, on l'avait dit, mais ça fait un an. Donc, je pense que on l'a un petit peu oublié. C'est normal. Cette situation difficile, et ça, ce sont des leçons qui, on va dire, là, on va très loin dans Istinbath, dans les leçons à retenir, mais c'est là que on peut comprendre ce qui nous arrive dans notre vie par le biais du tafsir, par le biais de ce qu'Allah a révélé. Et c'est là une source de réconfort qui est exceptionnelle, ça. Que tu trouves une réponse à tes questionnements et à tes questions dans le Coran, dans le Wahy. Cette situation difficile que le prophète alayhi salat wa salam est en train de vivre à Mecca et qui va durer plusieurs années. Ensuite, il y aura une autre situation où il va essayer de s'exiler. Il va aller où ça? Dans quel village? Non, avant Médina. Ça, c'est la grande immigration, ça. Dans quel village? Ah non, je le connais. Il tourne comme la route Silos. Hein? Barakallah fi Taif. Qui l'amène à Taif? Qui met dans son cœur pour y aller? C'est Allah, oui ou non? Et quand il arrive à Taif, Taif par excellence, c'est la ville de quelle fleur? Des roses. Un jour, visitez Taif, c'est magnifique. Enfin, on a 15 minutes, on ne va pas trop perdre de temps. Mais avec le nouveau visa, vous pouvez aller à Taif, vous pouvez aller où vous voulez. C'est la ville des roses. Mais le prophète ne va pas recevoir des roses, il va recevoir des jets de pierre. Alors là, je me pose une question, mais Allah l'a nommé prophète, l'a choisi pour être prophète. Allah fait de lui le meilleur des Anbiya, la créature la plus aimée. Allah aurait pu décider, Allah aurait pu décréter que sa mission se passe bien, qu'il monte sur la montagne, il dit « Oh Quraysh, vous m'avez toujours cru ». Vous m'avez toujours aimé, je vous dis que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, abandonnez l'adoration des idoles, revenez vers Allah et vous aurez le succès. Allah aurait pu, on parle au conditionnel, hein, mettre dans le cœur de ces Quraysh que cet homme-là, on l'aime. Et c'est la vérité. Et que tout le monde dise ensemble la ilaha illallah. Et que Makkah devienne une ville musulmane tout de suite. Et que de Makkah, vous savez que les Arabes avaient un respect, mais illimité pour la ville de Mecca. Quand on parle des Arabes, c'est toute la péninsule arabe. Hein. Quand on parle de la péninsule arabe, c'est pas l'Arabie Saoudite. Hein. C'est toute la péninsule, ça englobe les Émirats, ce qu'on appelle les Émirats et ainsi de suite. Toute cette péninsule. Les Arabes, ils avaient un Qibla, dans le sens Qibla, pas Qibla pour la prière, mais pour eux, le lieu de référence était Mecca. Et Mecca, c'était par rapport à la Kaaba. Si Mecca décidait, on reste au conditionnel, hein, si Mecca décidait de suivre cet homme, toute la péninsule arabe aurait suivi les Quraysh de Mecca, tellement ils avaient du respect. Et là on se dit, ben, c'est pas possible, pourquoi est-ce que les choses se sont mal passées? Pourquoi est-ce que quand il va à Taif, il reçoit des pierres, alors que Allah aurait pu décréter que les Banu, les gens de Taif s'appelaient comment? Les Banu Thaqif, ils l'accueillent et que Taif devient une ville musulmane, et que de Taïf la da'wa se propage. Allah aurait pu faire ça, oui ou non? Bien sûr. Mais Allah a décidé que sa mission se passe avec beaucoup d'épreuves, j'allais dire difficultés. Difficultés, mais ces difficultés sont avant tout des épreuves. Et cela concerne le meilleur des hommes, l'homme le plus aimé par Allah. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que quand il m'arrive à moi des difficultés, je dois réaliser que c'est dans les mains d'Allah, c'est Allah qui décide. Et s'il m'arrive des difficultés, c'est pas parce qu'Allah ne m'aime pas, non. C'est pas parce que je suis un problème ou je suis quelqu'un de mauvais, non. C'est-à-dire que Allah envoie des situations d'épreuve pour t'accepter encore plus, pour élever ton grade, pour que ce que tu vas obtenir bientôt, ce sera inestimable et merveilleux, pour que tes péchés soient totalement effacés. Et si le meilleur des hommes a subi des insultes, des moqueries, des accusations, de la médisance, victime de médisance, de calomnie et agression même physique, avec l'intestin des chameaux qui est en prosternation, là aussi on peut se dire que mais le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, autour de la Kaaba, en train de faire sijda, ben on va dire qu'il n'y a pas mieux que ça. Les meilleures conditions sont réunies. Et un Quraysh, il vient, il déverse les intestins de chameau sur son dos. Comment est-ce qu'Allah peut tolérer ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Ça ne va pas toujours marcher selon ma logique à moi, selon ce que j'attends de la vie, non. Il y a des fois où quelqu'un se dit, je fais doua, je fais doua, je fais doua. Je donne un exemple, hein, parmi tant d'autres, il faut juste que je ne me paie pas. Je fais doua depuis 2 ans, ya Allah, protège-moi du Covid, protège-moi du Covid, protège-moi, protège ma famille. Oui ou non? 5 fois par jour, il fait doua. Il est positif. Kaif, limada, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ne cherche pas à comprendre. Il y a ce que l'homme aimerait et il y a la décision divine. Asa an takrahu shay'an wa huwa. Et le contraire, wa asa an. Et Zakaria, tu es devenu un vieux grand-père. Tu es devenu vieux. Tu es resté trop longtemps comme moi.
Ah oui, oui, c'est
bon. Alors, shay'an wa huwa khayrun lakum. Il y a des fois où tu ne veux pas quelque chose. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Allah décide que tac, ça tombe sur toi. Mais ne remets pas en cause la décision d'Allah. Et ça ne veut pas dire que tous les doigts que tu as fait, ça n'a servi à rien. Non. Je ne veux pas ouvrir trop de parenthèses, mais chaque doigt que tu fais et qui n'est pas exaucé selon ce que tu demandais, ça se transforme en montagne de récompense. Et le jour de Qiyam, le croyant va trouver dans son livret d'action, enfin plutôt dans ses récompenses, des montagnes de bonnes œuvres. Et il va dire, ces bonnes actions-là ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas moi qui accomplis tout ça. Et on lui dira que ça, ce sont les doigts que tu demandais sur terre, mais Allah ne t'a pas accordé. Et voilà la récompense. Vous voyez, il y a une sagesse divine qui nous échappe. Donc le prophète sallam, en prosternation, il reçoit ses difficultés. Le prophète alayhi salat wa sallam invite son peuple au début. On l'humilie en public, humiliation. Il va à Taïf, il reçoit des jets de pierre. On comprend que tout est dans les mains d'Allah et que lorsqu'il y a des difficultés, ce sont en fait des épreuves. Et là, dans cette situation d'épreuve, il y a « qum fa'anvir ». C'est là qu'on conclut « lève-toi et avertis ». C'est-à-dire que ne te laisse pas, ô croyant, dépasser par l'épreuve, les difficultés. Il est normal que tu sois triste. Et normal qu'il t'arrive quelque chose, tu sois abattu, on peut dire. C'est normal, c'est humain, mais ça dure quelques temps. Ensuite, on doit être capable de se lever, comme on dit, relever la tête et y aller, bismillah, et s'en remettre à Allah et ne pas oublier que j'ai été créé pour l'adoration d'Allah. J'accomplis ma mission. Hada. Allah demande au prophète alayhi salat wa salam, wa rabbaka fakabbir. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Kabbiru, ya jama'a. Kabbir, ça veut dire quoi? Allahu Akbar. J'aimerais que tout le monde dise une fois Allahu Akbar. Vous savez que quand on dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, qu'est-ce qui se passe? Il y a des arbres qui sont plantés dans notre Jannah. Pas dans le Jannah, dans notre Jannah. Il y a une différence, hein? C'est pas toi qui es en train de décorer le Jannah pour les gens, non. C'est ton paradis à toi. Il y a que ce qu'Allah t'a prédestiné, il y a un arbre qui pousse juste en faisant un dhikr. Donc Allah demande par exemple de proclamer sa grandeur. A'azzimhu bit-tawhid. Waj'al, c'est beau ce qu'il dit à Sa'di. Qasdaka fi indharika wajh Allah. Naam. C'est un appel vers la sincérité. Le prophète, bien sûr, était l'homme le plus sincère. C'est un rappel pour lui et pour l'ensemble de l'humanité. Que dans, tu te lèves, tu avertis les gens. Et dans cette prêche, il faut être le plus sincère. L'objectif, c'est de ramener les gens vers la grandeur d'Allah, vers l'adoration d'Allah. Azza wa jalla. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. On avait dit 20 minutes, on s'arrête. Comme on a dit, l'objectif, c'est que ceux qui doivent aller se restaurer, ils peuvent manger. Et surtout, revenir pour la salat de Isha. Qui est ici à 20h35, c'est ça? Oui, c'est pareil dans toutes les villes. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte ce petit majlis qu'on essaie de remettre en place. C'est pas long, je sais, mais c'était soit ne rien faire, faire en ligne, ce qui est pas évident, ou essayer de faire 15 minutes après Maghrib. Alhamdulillah, on peut le faire, bi'idhnillah. Qu'Allah nous accorde istiqam. J'aimerais qu'on essaie d'être régulier. Yom al-Jum'a, le vendredi, après la salat de Maghrib, nos 15 minutes de tafsir. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا